Enregistrement numéro 2, Laurent Martin, politique et institutions culturelles en France. Deuxième sous-partie dans cette deuxième partie consacrée aux lieux contre-institutionnels, après avoir dans un premier temps présenté les centres culturels de rencontre. Je reviens maintenant au deuxième point, donc, qui est les tiers-lieux. Cette notion de tiers-lieu a été utilisée pour la première fois par le sociologue américain Roy Oldenburg dans un ouvrage intitulé « The Great Good Place » publié en 1989. Ce terme fait référence aux environnements sociaux se positionnant entre l'environnement domestique, qui serait le premier lieu, et le lieu de travail, qui serait le deuxième. Selon ce professeur en sociologie urbaine, ces tiers-lieux sont importants pour la société civile dans le sens où ils instaurent des modes d'appropriation et de partage de l'espace urbain et rural innovant. Je parlerai surtout des lieux que l'on trouve dans l'espace urbain. Ce sont des lieux où les individus peuvent se rencontrer, échanger de façon informelle. La nature de ces espaces est variée et englobe aussi bien les bars, les bibliothèques, les centres commerciaux, des espaces de coworking et autres fab labs, les fabriques, selon un terme qui est devenu très à la mode. Et puis, ce que l'on peut nommer les tiers-lieux culturels, qui sont des lieux où se réunissent des collectifs d'artistes, typiquement ce qu'on appelle des squats, enfin, disons que les squats artistiques font partie de cette catégorie. Ces divers lieux culturels ont la caractéristique commune de tendre à sortir d'une vision un peu trop classique, formelle ou formaliste de la culture pour s'intéresser aux acteurs et aux espaces inscrits au plus près de la vie quotidienne. Comme l'a dit Raphaël Masson, M-A-2-S-O-N, les tiers-lieux culturels sont encastrés dans leur territoire et se positionnent comme des interfaces entre l'upper ground des institutions culturelles et l'underground des habitants, des usagers, des sphères culturelles et artistiques émergentes et alternatives. Dans le langage courant, dans l'imaginaire collectif, l'expression « tiers-lieu » désigne tous les lieux intermédiaires. Elle connote la marge, l'alternatif, l'autonomie, l'autogestion. C'est une notion qui englobe tout espace aujourd'hui issu d'initiatives indépendantes, hors des cadres, hors des logiques des politiques culturelles classiques et dans une démarche souvent de refus des labels et des reconnaissances officielles. Malgré l'hétérogénéité de ces lieux, la diversité des modalités d'existence, de collaboration, de gestion, la diversité des formules également de gouvernance, deux invariants au moins demeurent, qui sont la précarité et le temporaire. Alors, quelques mots sur cette vaste typologie de lieux qu'englobe ce terme un peu fourre-tout de tiers-lieux, qui regroupe des espaces comme les squats et notamment les artistes, les squats artistiques, les nouveaux territoires de l'art, comme on les appelle aussi, et plus généralement tous les lieux intermédiaires. Un squat, c'est un terme qui renvoie plutôt à une revendication d'absence de toute forme juridique, à l'autogestion et à la présence évidemment d'une population qui souvent occupe de façon illégale un local en vue de son habitation, de son utilisation collective. C'est avant tout une démarche de revendication doublée d'une posture militante, souvent associée à une esthétique de l'alternative. Lorsque l'on parle de squat, et notamment dans le domaine culturel ou artistique, donc c'est une variante ou une variété de ces espaces marginaux qui participent de la même logique de revendication, mais où il s'agit d'occuper un espace vacant pour créer et non plus seulement pour habiter. Donc la pratique artistique, qui nécessite dans certains cas de grands volumes vacants, a justifié que des artistes donc s'installent souvent de façon illégale dans un certain nombre de lieux qui sont des lieux donc de création, voire aussi de résidence. Le squat d'artistes le plus emblématique dans la région parisienne, c'est le 59 Rivoli, installé, comme son nom l'indique, au 59 de la rue de Rivoli à Paris. J'ai mis sur le PowerPoint une photographie de la façade de cet espace. C'est un immeuble laissé à l'abandon des années durant et qui a été investi, squatté dès 1999 par un collectif d'artistes chez Robert, Électron Libre. Ce tiers-lieu culturel a au fil du temps gagné en influence jusqu'à devenir le symbole de la création artistique dans ces espaces, donc dans ces squats artistiques. Malgré sa popularité, cet espace autogéré a été menacé d'expulsion et ce sont finalement les élections municipales en 2001 qui ont vu la ville de Paris changer de couleur politique, passer à gauche. C'était donc le début du mandat, le premier mandat de Bertrand Delanoë, qui ont changé la donne. Un accord a été passé entre la mairie et les squatteurs et le 59 Rivoli a été légalisé à la suite de la signature de conventions d'occupation. Et cela a ouvert la voie à d'autres collectifs d'artistes squatteurs. Revendiquant une démocratisation plus volontaire, plus nette de la culture, les activités artistiques des squats culturels peuvent aussi être un élément parmi d'autres activités du squat, comme le bricolage, comme des cours du soir, comme l'hébergement de SDF, des activités politiques et sociales. Et donc ces squats artistiques peuvent être uniquement voués à la création, mais sont souvent aussi des lieux où d'autres activités coexistent. Les lieux culturels intermédiaires indépendants se distinguent des autres squats de par la présence de l'art au centre du fonctionnement du bâtiment occupé. Cette présence artistique se concentre plus sur la pratique et la création que sur l'exposition au public. Le geste artistique, le processus créatif étant mis au niveau de la finalité de l'œuvre, ce qui favorise l'utilité sociale et l'esthétique propre développée dans ces lieux. De plus, les lieux intermédiaires indépendants se refusent à une logique de consommation de l'art et revendiquent d'être des espaces où se rejoignent artistes et je dirais, non-artistes dans une démarche collective donc associe non-artistes, habitants locaux, autres personnes hébergées sur les lieux d'horizons divers, que ce soit des militants, des personnes sans papier ou sans domicile. Mais il y a quand même souvent une forte revendication de démocratisation réelle, en quelque sorte, de la culture, d'un accès à la culture pour tous, et un accès par la pratique, en fait, pas seulement par la consommation d'œuvres. Le terme de friche, qui est également beaucoup utilisé, déplace le curseur pour le placer non plus sur le rapport à l'institution, mais plutôt sur l'espace urbain. Parler d'une friche met l'accent sur l'espace physique, détourné de sa fonction originelle. On pense aux anciens abattoirs, à des casernes militaires laissées à l'abandon, à des entrepôts désaffectés. Je pense notamment à cet entrepôt qui abrite, cet entrepôt de la SNCF qui abrite le collectif Shakira à Paris, ou la Belle de Mai à Marseille. Si je reviens au 59 Rivoli, ce nom fait référence à un ancrage territorial au sein de la ville, et c'est le cas pour la plupart de ces lieux qui font souvent référence à l'héritage historique du bâtiment ou à sa fonction première. Je parlais des abattoirs, il y a à Madrid notamment un espace qui s'appelle le Matadero, qui est donc l'abattoir, les anciens abattoirs de la ville où se sont installés des collectifs d'artistes. La Belle de Mai, que j'ai citée également à Marseille, est un tiers-lieu culturel installé dans une manufacture de tabac laissée en friche dans un quartier d'où il tire son nom. Alors, comment définir le tiers-lieu, tant le champ des réalités qu'il englobe est vaste et sa métamorphose constante? Le tiers-lieu est une expression à la mode depuis quelques années, mais la notion n'a rien de nouveau et s'ancre dans un contexte socio-urbain bien particulier. Des espaces, en fait, donc laissés à l'abandon, et d'où sont nés des besoins d'organiser des lieux où une urbanité positive puisse se créer, à l'instar d'autres lieux, disons, culturels ou non. Ce sont des lieux qui abritent des expériences associatives, citoyennes, engagées, voire militantes, qui sont issues donc de l'héritage des squats et des occupations des friches industrielles. C'est une forme d'appropriation de l'espace urbain. et de développement d'activités en marge des institutions classiques, des pouvoirs publics ou du marché. Plus qu'un espace physique, au fond, le tiers-lieu, et notamment le tiers-lieu culturel et artistique, est une démarche, une communauté en action, une démarche collective. Le collectif est intrinsèquement lié à la notion de tiers-lieu et le principe de mixité, mixité des disciplines, mixité sociale, mixité ethnique, y est capital tant sur le plan politique que sur le plan artistique. La notion de pluridisciplinarité est également donc centrale. J'évoquais la gouvernance. Quelles sont les formes quelles sont les formes institutionnelles de ces tiers-lieux? 56%, il y avait une étude qui avait été réalisée dans la région Nouvelle-Aquitaine. En région Nouvelle-Aquitaine, 56% des tiers-lieux avaient une gouvernance de type associative, 12% de type coopérative, 20% une gouvernance privée. Les contributions bénévoles étant par ailleurs importantes au sein des tiers-lieux qui s'auto-administrent dans la plupart des cas. Toujours dans cette région Nouvelle-Aquitaine, seulement 12% de ces tiers-lieux étaient gérés par les collectivités territoriales. La diversité des situations qu'incarnent ces lieux gérés par des collectifs artistiques participe de la richesse du phénomène. Aujourd'hui, c'est un terme qui est à la mode. C'est un modèle qui est repris, soutenu, encouragé dans de nombreuses et par de nombreuses politiques culturelles territoriales. Et donc il y a une dimension importante qui est, enfin, il y a une tension, disons, entre le souhait de conserver le projet initial, qui est un projet, encore une fois, par définition et par essence marginal, contre-institutionnel, et des formes de reconnaissance, voire de soutien en nature ou en termes de subvention par les pouvoirs publics, qui sont parfois la condition de la pérennité du projet. Donc comment durer dans le temps tout en préservant une forme d'indépendance et une forme de fidélité, disons, à des objectifs initiaux, c'est un peu toute la difficulté, toutes les problématiques de ces tiers-lieux. Je disais que les tiers-lieux étaient pour la plupart des expériences associatives. Or, on voit donc qu'un certain nombre d'acteurs privés ou publics, des acteurs privés par exemple, je pense à la Fondation Orange qui a un programme tiers-lieux solidaires, des acteurs publics, je citais à l'instant la région Nouvelle-Aquitaine, qui a qui apporte un soutien institutionnel, financier à un certain nombre de lieux identifiés comme des tiers-lieux sur ce territoire, sur son territoire. Donc depuis une vingtaine d'années, je dirais, les tiers-lieux, et notamment les tiers-lieux culturels et artistiques, bénéficient de l'appui, du soutien d'un certain nombre d'acteurs institutionnels, privés ou publics. Les principales réhabilitations au début, à partir des années 2000, début des années 2000, ont été menées avec le soutien, le concours, voire à l'initiative des municipalités concernées. On pense par exemple au lieu unique à Nantes ou à la condition publique à Roubaix, au 104 à Paris, qui est l'un des grands projets culturels de la mandature de Bertrand Delanoë. Et donc, le tiers-lieu bénéficie d'une forme de reconnaissance, aussi bien par les pouvoirs publics que par les entreprises, que par le grand public, que par les médias. En septembre 2018, l'État a annoncé un plan de 120 millions d'euros sur 3 ans pour renforcer et déployer les tiers-lieux. Donc, il y a des formes de soutien, de reconnaissance, des logiques de label, des formes de financement qui posent vraiment question et qui peuvent engendrer des problèmes ou des effets pervers. Alors, premier problème, je n'en citerai que deux essentiellement. Premier problème, c'est la dépendance nouvelle d'un certain nombre de ces lieux aux subventions publiques et l'entrée de ces lieux dans des logiques effectivement qui sont celles des institutions classiques. Je cite ici un entretien réalisé par Fabrice Lextrait, Lextrait, l'ancien directeur de la friche La Belle de Mai à Marseille, qui déplorait le risque que l'artistique, je le cite, hein, l'artistique privé de moyens soit de moins en moins présent dans les tiers-lieux. du fait de financements publics soumis aux aléas des changements politiques et qui, du coup, sont irréguliers et empêchent finalement que les projets puissent se déployer sur le long terme. Un autre intervenant, Stéphane Vatinel, V-A-T-I-N-E-L, Vatinel, qui est le fondateur d'un des premiers tiers-lieux artistiques français, le Glazar, début des années 90, disait que rien n'était pire qu'une collectivité qui change de bord politique et qui modifie le montant de ses aides. Alors, il y a un exemple, il y a plusieurs exemples hein, de cette versatilité des pouvoirs publics et du coup de la fragilisation d'un certain nombre de ces projets. Je n'en citerai que un. Le CISB, qui est un espace autogéré dédié à la création artistique installé à Saint-Denis. 20% de son financement était assuré par des subventions publiques jusqu'à l'arrivée, après les élections en 2015, de Valérie Pécresse à la tête de la région Île-de-France, qui a décidé de diviser par deux les subventions de ce lieu. Les subventions sont passées de 80 000 euros à 40 000 euros, ce qui a considérablement fragilisé ce lieu. Et donc, on peut penser effectivement qu'il y a là. Alors, c'est une forme un peu paradoxale, enfin, c'est un problème un peu paradoxal, puisque, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, par définition, normalement, par essence, les tiers-lieux se situent dans une forme de refus. Des institutions, et notamment donc du refus de l'aide institutionnelle sous la forme de subventions, etc. Et donc on pourrait se dire, mais au fond, ils n'ont que ce qu'ils méritent en quelque sorte s'ils se mettent à dépendre des subventions publiques, eh bien c'est déjà que le projet est dévoyé dès le départ, mais encore une fois, je le disais, c'est souvent la condition pour une pérennisation du projet, mais cette pérennisation, et là, cet effet pervers, effectivement, qu'elle fait rentrer ces lieux dans des logiques classiques de demande de financement, de demande de subvention, et donc aussi de mise en danger lorsque ces subventions, au bout d'un moment, cessent d'être accordées. L'autre effet pervers du soutien public, c'est, on disait, l'effacement progressif de l'investissement citoyen et militant, une forme d'institutionnalisation qui fait perdre de vue au collectif, et qui parfois d'ailleurs se sépare du fait même de cette évolution, qui fait perdre de vue les objectifs initiaux. C'est-à-dire qu'un certain nombre de ces lieux, à mesure qu'ils se sont institutionnalisés, à mesure qu'ils ont été reconnus et aidés, sont entrés dans une forme de normalisation et sont devenus de moins en moins des lieux de débat politique, citoyens, et sont devenus moins militants qu'ils ne l'étaient auparavant. Donc il y a une forme de dénaturation, si l'on peut dire, du projet initial, qui pose là aussi un certain nombre de questions. Alors, en réponse à cela, eh bien, certains collectifs choisissent de retrouver ou de garder la voie de l'indépendance absolue, mais en fait, elle n'est pas si absolue que ça, cette indépendance, elle passe en tout cas presque nécessairement. Si le tiers-lieu veut au moins durer quelque temps, des formes de négociation en fait, avec les pouvoirs publics ou avec également des acteurs privés. En voulant conserver leur dispositif non institutionnel, non hiérarchique, dans la continuité des initiatives spontanées citoyennes qui les avaient fait naître, un certain nombre de ces lieux, donc, ont refuser donc ces formes d'institutionnalisation. Pense par exemple à une expérience récente hein, qui se situe d'ailleurs dans le quartier de l'université, le cinéma La Clé, rue de La Clé, qui a été fermé par son propriétaire, est occupé depuis le mois de septembre 2019 par une association. L'association Home Cinéma, Home, HOME, Cinéma, épaulée par le collectif des spectateurs du lieu, du nom, au nom très évocateur, hein, Laissez-nous la clé, c'est le nom du collectif des spectateurs du cinéma, rassemblé, constitué à la suite d'une initiative citoyenne, et qui occupent les lieux en refusant les propositions de rachat par des groupes, qui sont des groupes en fait de grandes surfaces alimentaires, mais aussi des propositions qui émanent de chaînes de cinéma, de chaînes de salles de cinéma, considérant que ce rachat dénaturerait le sens de la programmation de ce cinéma associatif. La résistance aux injonctions, soit des pouvoirs publics, soit du marché, dans une société comme la nôtre, l'occupation donc illégale, le squat, peinent souvent à s'installer dans la durée, c'est même antinomique. En fait, ce sont des opérations souvent éphémères avant que les lieux soient, que les occupants soient délogés. Mais des solutions temporaires peuvent exister, des accords temporaires en fait peuvent être passés avec les pouvoirs politiques locaux pour subsister à travers le temps. Si au départ donc l'occupation du lieu est souvent illégale, certains collectifs ont comme volonté de légaliser leurs activités en passant des accords avec les acteurs politiques locaux. Cela passe par des conventions d'occupation précaire qui sont valables jusqu'à la réelle réhabilitation des lieux. C'est le cas par exemple au Chakiraï que j'ai cité tout à l'heure, Chakiraïl, dans le 18e arrondissement de Paris, qui fait l'objet d'un accord avec la SNCF depuis 2011, alors qu'aucun projet de réhabilitation n'est encore connu. Autre exemple, dans le 20e arrondissement de Paris, Le Meuble, qui est un lieu occupé, enfin, il y a un accord avec la mairie suite à 4 ans d'occupation illégale de cette ancienne usine de meubles désaffectée. L'accord d'ailleurs va prendre fin courant 2020. Je ne sais pas si les événements que nous vivons seront de nature à prolonger cet accord, mais au terme de cet accord, la ville fait vœu de détruire le bâtiment pour construire un centre d'accueil de personnes à mobilité réduite. Et donc, quand la ville passera à la phase concrète, en quelque sorte, de ce projet, les occupants seront délogés. Les conventions d'occupation précaire sont établies par la jurisprudence, donc par la décision des tribunaux. Selon l'Agence nationale d'information au logement, l'ANIL, elles sont le plus souvent le résultat d'un accord amiable entre le propriétaire d'un lieu déjà squatté et des occupants pour éviter à ce dernier de recourir à un procès pour un lieu de toute façon inoccupé. Ces conventions accordent le droit d'occupation du lieu en échange de la promesse de réhabilitation du lieu par les occupants et d'une somme modique qui contraint, qui ne constitue pas une contrainte, un obstacle insurmontable pour les squatteurs. Alors, toutes les expériences d'occupation ne se passent pas aussi bien. En 2010, par exemple, un collectif occupait une fonderie désaffectée rue du Chemin Fer à Paris, devenant le plus grand squat de Paris, qu'on appelait le Grand Bélec. 8 mois plus tard, le préfet et une équipe de police sont intervenus sur les lieux pour demander l'expulsion du squat. Et le collectif qui gérait donc ce lieu, le Grand Bélec, qui était un collectif qui s'appelait le Curry Vavart, Curry comme l'épice alimentaire, et Vavart, Vavart, a obéi et a vidé les lieux en moins d'une semaine. Mais une dizaine d'années plus tard, hein, le bâtiment est toujours désaffecté, donc malgré. Les lieux ont été récupérés, mais ils n'ont pas été pour autant utilisés pour autre chose. Autre exemple, à Saint-Ouen, le centre culturel Main-d'œuvre a fermé ses portes en octobre 2019. La mairie avait émis le souhait de récupérer le bâtiment pour y installer un conservatoire. Le collectif qui occupait ces lieux a dû déménager. Ces occupations de lieux, contournant les accords légaux et financiers usuels, font de ces lieux intermédiaires culturels des espaces plus proche des squats politiques militants que des tiers-lieux culturels institutionnalisés. On y remarque souvent d'ailleurs un brassage social plus important que dans les autres établissements, une forme de résistance, disons, à une normalisation que l'on trouve dans d'autres tiers-lieux. Les tiers-lieux artistiques sont aujourd'hui en effet de plus en plus intégrés, je dirais presque digérés par les politiques culturelles locales. Mais ils ont ouvert une voie nouvelle, je dirais, à l'écart des logiques productivistes, concurrentielles, compétitives que l'on trouve dans d'autres institutions, y compris publiques d'ailleurs, dans le domaine culturel. Le paradoxe est donc que ces tiers-lieux, qui sont au départ en rupture avec les cadres institutionnels, sont devenus aujourd'hui des institutions à part entière. Donc il y a une forme encore une fois, de revendication paradoxale de la part d'un certain nombre d'acteurs de ces tiers-lieux qui à la fois revendiquent donc une forme de marginalité et la poursuite donc de projets situés en lisière, je dirais, des institutions et des politiques culturelles classiques et qui, dans le même temps, parfois, réclament un soutien public, au moins une reconnaissance symbolique, parfois donc aussi des subventions ou des formes d'aide en nature, ce qui donc est apparaît un peu contradictoire hein, dans certains cas. Mais il est clair, et là je cite de nouveau pour finir sur ce point Fabrice Lextrait, qui a donc écrit sur ces questions. J'ai mis les références bibliographiques sur la présentation PowerPoint que j'ai par ailleurs placée donc sur l'ENT à côté de cet enregistrement. Donc Fabrice Lextrait disait: aujourd'hui, si nous ne réussissons pas à créer des tiers-lieux dans les institutions, à susciter des espaces intermédiaires dans les programmations, à mettre en friche des politiques culturelles, nous aurons définitivement abandonné l'espace public au marché. Donc il y a une dimension importante à prendre en compte dans ce dialogue, dans cette relation entre les tiers-lieux et les pouvoirs publics. Les pouvoirs publics sont appelés, disons, à soutenir ces initiatives parce que ce sont des initiatives innovantes, intéressantes, qui réussissent à faire un certain nombre de choses que les institutions classiques ne parviennent pas à faire. Et en même temps, il faut que ce soutien n'empêche pas, enfin, ne, 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 oui, non, non, n'empêche pas une forme de Ah, c'est difficile de trouver les mots, même enregistrés. Il faut que que ce soutien ne conduise pas à une forme d'institutionnalisation qui dénaturerait complètement le projet originel. Voilà, j'en ai terminé donc sur ces deux points. Je voulais traiter également dans le plan initial des festivals, mais ça m'emmènerait beaucoup trop loin et trop long. Et je préfère faire comment dirais-je, des enregistrements courts et ne pas perdre trop de temps non plus sur chacun des thèmes. Donc je vais m'arrêter là pour cette séance qui portait sur les institutions culturelles. Et les prochains enregistrements que je ferai, donc dans les, je pense, un ou deux jours qui viennent, trois au maximum si je n'ai pas réussi à être plus rapide, porteront donc sur la séance suivante, sur le thème de la séance suivante, qui sera donc le financement de la culture. J'évoquerai donc dans cette séance suivante le soutien, enfin le financement public au niveau central, hein, le budget du ministère de la Culture et des autres ministères. D'ailleurs, j'évoquerai les divers modes de calcul de cette dépense publique en faveur de la culture. J'évoquerai également les collectivités territoriales qui jouent un rôle centrale sur ce financement public de la culture. J'avais prévu là aussi de faire un troisième thème portant sur les partenariats publics-privés, le rôle des fondations et le rôle du mécénat qui aujourd'hui prend après plus d'importance dans le financement de la culture. Là aussi, je pense que je vais être trop long déjà sur les deux premiers points que je comptais traiter. Donc ce que je ferai, c'est compléter l'enregistrement et la présentation PowerPoint par des PDF d'articles, notamment je pense à un article de Jean-Michel Taubelem sur le mécénat dans le domaine culturel qui me semble tout à fait clair et intéressant. Et donc je déposerai également sur l'ENT ces enregistrements. Et puis par ailleurs, donc, je dois faire aussi les enregistrements des cours correspondant à l'autre cours sur l'histoire culturelle de l'Occident contemporain. Et donc, voilà, je ferai tout cela progressivement. J'espère que ces enregistrements sont non seulement audibles, mais intéressants, que je ne parle pas trop vite et que je ne parle pas de manière trop obscure, que vous y retrouvez. Dans tous les cas, s'il y avait besoin de répondre à des questions, bien sûr, je reste à votre disposition pour répondre à telle ou telle question. Voilà. Donc, à très bientôt. Au revoir.